Chapitre 16. Les pharisiens reprennent maintenant leur attaque, s'alliant, pour l'occasion, avec leurs ennemis traditionnels, les sadducéens. Le signe du ciel n'était qu'un piège, car c'était précisément le genre de choses que les sadducéens, avec leurs notions matérialistes, n'accepteraient jamais. Dans sa réponse, le Seigneur montre qu'ils étaient d'excellents observateurs de la nature et du ciel, mais qu'ils étaient tout à fait aveugles aux signes des temps, qui demande du discernement spirituel pour être compris. Étant une génération méchante et adultère, ils n'avaient aucune intelligence spirituelle. Aussi les signes que Dieu donne n'étaient-ils d'aucun profit pour eux. Comme il l'avait dit précédemment, chapitre 12, verset 39, le signe de Jonas le prophète subsistait, à savoir sa propre mort et sa résurrection. Sur ces mots, il les quitte. Et nous savons que lorsque ce grand signe se produisit, ils firent appel à toutes les astuces, y compris leur argent, pour tâcher de l'annuler. Nous le verrons dans le dernier chapitre de cet évangile. Après s'être détourné de ces hommes, le Seigneur adresse à ses disciples des paroles d'avertissement. Ils devaient être en garde contre le levain. Les disciples prennent d'abord cette mise en garde dans un sens matériel, confortés dans leur erreur par le fait qu'ils avaient oublié de prendre du pain. Pourtant, le souvenir des 5 000 et des 4 000 qui avaient été nourris aurait dû leur ôter toute inquiétude. Ils finissent par comprendre que par « levain », le Seigneur entendait « doctrine ». Il est ainsi évident que, si le vrai disciple ne peut jamais être ni un pharisien ni un sadducéen, il peut être contaminé par leur doctrine, par l'une des deux ou par l'une et l'autre. Le levain des pharisiens était ce genre d'hypocrisie religieuse qui met tout l'accent sur les formes religieuses. Le levain des sadducéens était l'orgueil spirituel qui juge tout selon la raison humaine et qui fait fi de la révélation de Dieu ainsi que de la foi. La mesure dans laquelle la chrétienté est contaminée par ces deux tendances se discerne tristement aujourd'hui. Le ritualisme d'une part, le rationalisme ou modernisme d'autre part, sont bien répandus, et souvent les deux sont mélangés et produisent une sorte d'amalgame ritualiste-rationaliste. À l'avertissement du Seigneur vient s'ajouter celui de l'apôtre Paul en Colossiens 2. Le verset 8 de ce chapitre nous met en garde contre le rationalisme et les versets 16, 18 et 20 à 22 contre le ritualisme dans ses formes variées. Il nous est montré comment ces choses nous détournent de Christ et nous empêche de tenir ferme le chef. Il est significatif que dans notre chapitre, l'avertissement du Seigneur contre les uns et les autres vienne juste avant le récit de sa visite à Césarée de Philippe, avec la question qu'il pose là à ses disciples. À cet endroit, il se trouvait à la frontière nord du pays et aussi loin que possible des lieux fréquentés par ces hommes. Qui était-il? C'était la grande question. Les réponses données sont variées et confuses. L'intérêt de ces gens n'était pas suffisant pour qu'ils s'en enquièrent soigneusement. Mais quand ils s'adressent plus directement à ses disciples, Pierre, enseigné de Dieu, peut donner une réponse claire qui met en lumière le roc sur lequel l'assemblée allait être bâtie. Colossiens 2 montre l'effet destructif du levain des pharisiens et des sadducéens sur la position et la foi de l'assemblée. En Matthieu 16, nous voyons le Seigneur mettre ses disciples en garde contre les deux, avant de faire pour la première fois mention de l'assemblée qu'il allait bâtir. Simon-Pierre était bienheureux, car c'est de Dieu lui-même qui est dans les cieux, de celui dont Jésus parle comme étant mon Père, qu'il avait reçu une révélation qui n'aurait jamais pu lui être faite par l'homme. Ses yeux avaient été ouverts pour voir en Jésus le Christ. Telle est sa position officielle comme loin de Dieu. Mais Pierre a discerné qu'il était le Fils du Dieu vivant. Voilà certes une confession frappante. Dieu est le Dieu vivant, infiniment au-delà du pouvoir de la mort. Jésus, étant le Fils dans la déité éternelle, est de ce fait également au-delà de toute la puissance de la mort. Pierre avait évidemment reçu cela par révélation divine. Il n'en avait pas encore saisi toute la portée, comme nous le voyons quelques versets plus bas. Il a cependant vu qu'il en était ainsi, et il l'a confessé. Est-ce que nous le confessons, nous aussi? Et est-ce que nous en comprenons réellement le sens? Si tel est le cas, nous avons véritablement trouvé un roc inébranlable, et, comme Pierre, nous sommes des bienheureux. Dans les paroles adressées à Pierre, au verset 18, le Seigneur confirme le nom qu'il lui avait donné lors de sa première rencontre, rapporté en Jean 1, verset 43, tout en révélant quelque chose de plus quant à sa signification. Ce nom, Pierre, reliait le disciple à l'assemblée que Christ, le Fils du Dieu vivant, allait bâtir. Ainsi, Christ lui-même est le roc sur lequel l'assemblée va être fondée. Pierre n'était pas un roc. Il semble même avoir été le plus impulsif des disciples, celui qui était le plus facilement ébranlé, voir Galates 2, versets 11 à 13. Il n'était qu'une pierre, et l'erreur consistant à le confondre avec le roc est inexcusable, car le Seigneur, dans l'emploi qu'il fait des mots, signale la distinction disant « Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon assemblée ». L'édification de l'assemblée était encore future, car le roc ne pouvait être pleinement révélé avant que le Fils du Dieu vivant ait prouvé son triomphe par la mort et la résurrection et qu'il ait été élevé dans la gloire. C'est alors qu'a commencé l'Ecclésia de Christ, ou compagnie de ceux qui sont appelés hors d'eux. Et il y avait là une des pierres qui serait ensuite édifiée sur le roc. Dans sa première épître, cet apôtre nous montre que ce n'est pas une chose réservée à lui exclusivement, car tous ceux qui viennent à la pierre vivante sont des pierres vivantes ajoutées à leur tour sur cette fondation. Dans cette importante déclaration, le Seigneur parle de son assemblée comme étant son propre ouvrage contre lequel aucune sagesse ou puissance adverse ne prévaudrait. Rien ne peut affecter ce qui est fait dans la puissance de la vie divine. Dans d'autres passages, l'assemblée est considérée comme la communauté professant fidélité à Christ, amenée à l'existence par les travaux de ceux qui prennent la place de serviteurs de Dieu. Dès le début, cette communauté a été marquée par les manquements. Elle s'est fondue dans le royaume des cieux dont le chapitre 13 nous a appris tant de choses et que le Seigneur mentionne dans le verset 19 de notre chapitre. Les clés de ce royaume, et non pas celles de l'assemblée, ont été donnés à Pierre. Tous ceux qui professent obéissance au roi sont dans le royaume des cieux, et une place administrative spéciale a été confiée à Pierre en rapport avec cela. Nous le voyons exercer l'acte de délier, quant aux Juifs en acte 2, versets 37 à 40, et quant aux gentils en acte 10, versets 44 à 48, et celui de lier en acte 8, versets 20 à 23. Et dans ces cas, ces actes ont clairement été ratifiés dans les cieux. Mais Simon le magicien, bien qu'il ait été baptisé après avoir professé être un sujet du royaume, n'a jamais été ajouté par le Seigneur à son assemblée. Le royaume des cieux avait été révélé dans les écrits de l'Ancien Testament, toutefois sans qu'il soit question de sa forme mystérieuse actuelle. D'un autre côté, rien n'avait été dit quant à l'assemblée, et ces paroles de Jésus en étaient une révélation préliminaire. Après cette déclaration, il écarte aussitôt le témoignage que ses disciples avaient rendu, disant qu'il était le Christ venu sur la terre pour confirmer les promesses faites au Père. Romains 15, verset 8. Sa réjection était certaine, et sa mort imminente. Ainsi seulement serait posée la base appropriée pour l'accomplissement des promesses faites à Israël, ou la bénédiction des gentils, afin qu'ils glorifient Dieu pour sa grâce qui les a introduits dans l'assemblée. Aussi, à partir de ce moment, Jésus tourne les pensées de ses disciples vers sa mort et sa résurrection, le point culminant de son histoire sur la terre. Christ dans la gloire de la résurrection, plutôt que Christ dans sa gloire terrestre, était le but placé devant eux. Pierre manifeste ici sa fragilité et son caractère bien peu conforme à un roc. Il doit être repris. Il est frappant dans ces versets de le voir éclairé par Dieu, puis recevant une place privilégiée dans le domaine administratif, et enfin parlant d'une manière qui rappelle à notre Seigneur Satan et les hommes déchus. Tel était Pierre, et nous ne valons pas mieux. Ses pensées et celles des autres disciples était fixé sur des bénédictions qui devaient se réaliser sur la terre. Le Seigneur le savait, et il commence à leur expliquer comment sa mort changerait tout pour eux. Eux aussi auraient la sentence de mort sur eux, et perdraient leur vie dans ce monde. Cette déclaration de notre Seigneur, verset 25, ne revient pas moins de 6 fois dans les 4 évangiles, avec de légères variantes. 2 fois dans cet évangile, 2 fois en Luc, 1 fois en Marc et 1 fois en Jean. Ces 6 fois recouvrent, à notre avis, 4 occasions différentes. Ce sont donc évidemment des paroles que Jésus a souvent prononcées, et cela prouve leur grande importance. Elles atteignent chacun de nous dans ses fibres les plus profondes, et pourtant, elles résument en peu de mots un principe capital de la vie spirituelle, valable pour toute la période de sa rejection et de son absence dans ce monde. Ce n'est qu'à son retour que les saints jouiront de la vie sur la terre dans un sens complet et littéral. Vouloir gagner le monde maintenant, c'est perdre son âme. Après avoir montré à ses disciples ce qu'il avait devant lui et ce qui les attendait, eux, dans le futur immédiat, le Seigneur parle de sa venue en gloire. Il recevra alors le royaume de son Père et ce sera le temps des récompenses. Quelques-uns d'entre eux auraient le privilège de voir le royaume en miniature comme échantillon de ce qui viendrait. C'était là une expression de sa grâce et de sa sollicitude envers eux, afin qu'ils ne soient pas complètement découragés par ce qu'il venait de leur dire.